Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un économiste dans le grand entretien du 7-9. Il dirige le département d'économie de l'École normale supérieure. Il publie chez Albin Michel « Il faut dire que les temps ont changé », chronique fiévreuse, entre parenthèses, d'une mutation qui inquiète. Intervenez dans 10 minutes au 01 45 24 7000. Intervenez sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Ce livre est une fresque politique, économique, culturelle des 50 dernières années, celles qui viennent de s'écouler de mai 68 à nos jours. Vous dites qu'il faut admettre une fois pour toutes que la société industrielle est morte. Alors, c'est un moment fini de l'histoire et on voit confusément ce que ça peut vouloir dire, mais dites-le nous précisément, qu'est-ce que ça implique et de quoi devons-nous faire le deuil?
Voilà, on doit faire le deuil tout simplement de la promesse de progrès que la société industrielle a porté. À l'époque, on l'avait beaucoup contesté. Au fond, mai 68, c'est un immense rejet de cette façon de vivre. On appelait ça métro, boulot, dodo, à la chaîne, dans la répétition, à la fois dans la production et dans la consommation. Mais avec le recul, maintenant que cette société s'est effondrée, maintenant qu'elle a disparu, on comprend qu'elle avait aussi quelques vertus, et notamment le fait qu'elle était intégratrice des classes populaires, des ouvriers. Ils étaient solidement arrimés, précisément à la production, mais dans une chaîne de valeurs sociales qui faisait qu'ils participaient, ils étaient les acteurs et qu'ils participaient aux fruits de la croissance.
Donc c'est un deuil considérable.
C'est un deuil considérable et au fond, ce qu'on a appelé société post-industrielle, c'est une façon de dire ce à quoi on renonçait sans être véritablement capable de dire positivement, en tout cas pendant très longtemps, ce qu'était le monde qui s'était substitué à celui qui a disparu. Et donc, on est dans ce deuil, dans cette absence d'un monde qui était intégrateur et qui laisse place à une société qui ne l'est plus.
Ces classes populaires dont vous dites qu'elles se sont senties trahies à la fois par la gauche, puis par la droite, et qui aujourd'hui sont de plus en plus tentés par ce qu'on appelle le populisme. Ce monde nouveau que vous décrivez, ce monde incertain qui fait peur, un monde où la machine a remplacé l'humain, où à part quelques-uns, écrivez-vous, on est de plus en plus seul et de plus en plus pauvre. C'est ça le véritable carburant du populisme?
Oui, moi je pense que les classes populaires ont subi une formidable désocialisation. Elles ne se retrouvent plus intégrées. Il n'y a plus de syndicats qui portent leur voix, comme c'était le cas dans les années 50 et 60. Et donc cette désocialisation progressive, je crois que c'est ça qui nourrit le populisme. On associe souvent le populisme au rejet des immigrés, produit par la crise migratoire notamment. Mais en fait, quand on interroge, et on a fait ça dans le cadre d'une enquête qu'on a menée à l'École normale, quand on interroge les électeurs du Front National, on l'a fait grâce à une enquête du CEVIPOF de Sciences Po, on voit que ce n'est pas simplement à l'égard des immigrés qu'ils sont phobiques, mais vraiment à l'égard de l'ensemble de la société qui ne veut plus d'eux. Donc par exemple, quand on les interroge sur le rapport avec leurs collègues de bureau, avec leur famille, on voit une même phobie se mettre en œuvre, se révéler. Donc je crois que manifestement, cette désocialisation fait le lit du populisme parce que les forces d'intégration ont disparu et que donc, d'une certaine manière, il n'y a plus personne pour prendre en charge les classes populaires, ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière.
Pour comprendre le nouveau monde dont Léa parlait à l'instant, dites-nous ce qui se passe chez le coiffeur, Daniel Cohen.
Oui, donc il faut essayer...
Le coiffeur.
Voilà, exactement. Et c'est une figure absolument emblématique de cette société post-industrielle, même si évidemment il y avait des barbiers avant, qu'ils ont toujours existé. Mais il faut définir positivement cette société post-industrielle si on veut s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'elle est? C'est ça, au fond, la grande question qui taraude tout le monde. Je crois que la manière la plus simple, c'est en effet de dire qu'après avoir travaillé la terre dans les sociétés rurales, puis la matière dans les sociétés industrielles, la société post-industrielle, c'est tout simplement une société de services où on s'occupe des personnes, où la matière qui est travaillée, c'est l'homme lui-même. Donc il y a le coiffeur, évidemment, mais il y a les éducateurs, il y a les professions de santé, il y a le temps qu'on peut passer les uns avec les autres pour s'occuper, par exemple, des personnes âgées. Le problème fondamental et qui taraude justement cette perte d'un idéal de progrès, c'est qu'une société de service telle que je viens de la définir, dans laquelle la valeur du bien, c'est le temps que je passe avec quelqu'un d'autre, cette société n'est pas capable de produire de la croissance économique. Le temps n'est pas extensible, sauf à travailler plus pour gagner plus, qui était d'ailleurs un des mots d'ordre de la révolution
conservatrice
et de Sarkozy.
Mais on ne peut pas... C'est définitivement terminé. Ça paraît paradoxal parce que il y a encore trois jours, Édouard Philippe disait on va désocialiser les heures supplémentaires pour pouvoir au fond revenir à cette antienne-là qui est travailler plus pour gagner plus.
Mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a une limite. On peut pas doubler le temps de travail tous les 15 ans comme on pouvait doubler le revenu des ouvriers dans les années 50 et 60. Et donc le simple fait qu'on soit obligé d'en venir à ça, c'est-à-dire de demander aux gens de travailler plus pour gagner plus, c'est le signe de cette absence dont on parlait tout à l'heure. Et je crois que c'est là que se joue la transformation radicale du monde contemporain. Comment faire pour retrouver de la croissance quand l'homme est l'objet qu'on veut travailler? Eh bien, on voit que la société numérique, la société algorithmique dans laquelle nous sommes en train d'entrer, est en train d'apporter, de sa manière paradoxale, une solution qui n'est pas très agréable. En transformant les humains en un système d'information qui permette de savoir quels sont vos désirs, quel est votre état de santé, quelle est votre capacité cognitive, un algorithme, une intelligence artificielle dont on parlait à l'instant à propos de la nouvelle forme de guerre, va pouvoir vous prendre en charge. Et à partir de ce moment-là, dès lors que vous rentrez dans cette matrice algorithmique, vous allez pouvoir renouer avec la croissance. Et le clin d'œil du livre, il faut dire que les temps ont changé. En réalité, bien sûr, tout a changé. Mais d'une certaine manière, ce pacte faustien qu'on avait signé dans les années 50 et 60 avec la société industrielle, qui était d'accepter une déshumanisation dans le travail à la chaîne pour pouvoir trouver de la croissance, nous sommes aujourd'hui même en train de le signer à nouveau pour retrouver de la croissance dans ce monde algorithmique. Nous sommes tous collectivement en train de renoncer à une part d'humanité.
Mais comment
nous
fait
devenons
comment
des instruments d'une croissance qui est celle de la révolution numérique.
Comment
nous acceptons comment de
faire
devenir
pour que
des
l'humain
nombres.
Ne soit pas broyé, pour que l'humain ne devienne pas
alors,
un nombre ou un algorithme.
On est ramené exactement aux questions qui se posaient en mai 68. En mai 68, on a fait la critique du monde industriel de deux manières. Une critique sociale, c'est quoi ce monde? Quelle est la part de l'homme dans les usines? Et c'est l'objet d'une contestation dont le syndicalisme était l'une des formes de l'expression. Et puis, on a une critique artiste. Nous n'acceptons pas d'être devant la télévision du matin jusqu'au soir. C'est cette double critique aujourd'hui dans ce monde naissant qu'il faut réarmer. Il faut une critique sociale, ne pas accepter l'ubérisation comme si c'était un état de nature parce que c'est comme ça qu'on produit de la croissance. Et une critique artiste, ne pas accepter cette forme d'addiction que la société algorithmique est en train de créer et qui nous fait toujours consulter névrotiquement notre email, fait regarder des séries parce qu'on est complètement dans l'addiction d'une société qui nous remet en ligne comme elle nous mettait à la chaîne auparavant.
Alors, je voudrais dire un mot et vous demander une explication sur une phrase qu'on trouve dans votre livre qui nous porte au cœur de la dynamique culturelle, entre guillemets, du populisme. L'ennemi des classes populaires, dites-vous, est le surmoi des élites de gauche. Répète, l'ennemi des classes populaires est le surmoi des élites de gauche. Que voulez-vous dire par là?
Alors, c'est une formule de Michael Sanders que je reprends et il le commentait à propos de l'élection de Trump contre Hillary Clinton. Mais je crois qu'en effet, il faut comprendre derrière cette montée du populisme une double déception à l'égard de la gauche et à l'égard de la droite. Et c'est au fond une déception presque symétrique. La gauche, dans les années 50 et 60, a interprété la sortie de la société industrielle comme l'annonce d'une sortie du capitalisme. On a cru qu'après la société industrielle, quand on aurait tous notre machine à laver et notre automobile, il n'y aurait rien et qu'on allait pouvoir sortir de la société matérialiste, la société capitaliste. Et cette promesse de la gauche, évidemment, a été déçue, fracassée par la crise économique des années 70. Et dans les années 80, la droite a fait une promesse presque symétrique. Elle a dit, non, c'est pas du tout la sortie du capitalisme, mais c'est un retour à ses valeurs fondatrices. Celle du travail, c'est le travailler plus pour gagner plus, c'est le travail, c'est l'effort, c'est au fond une restauration morale autour de la valeur du travail. Cette promesse a été trahi exactement comme avait été trahi la promesse des années 60, parce que on a assisté en fait à l'explosion des inégalités, au triomphe de la cupidité, pour reprendre le titre d'un livre de Joseph Stiglitz. Et c'est cette double trahison. Côté gauche, on va sortir du capitalisme. Côté droite, on va revenir à des valeurs morales qui vont fonder le travail et l'effort. C'est cette double trahison, je crois, qui explique d'une certaine manière pourquoi les classes populaires ont été cherchées ailleurs dans le populisme. La promesse d'un monde enchanté qui leur redonne une place.
Et si on regarde la France aujourd'hui, depuis un an, l'élection d'Emmanuel Macron. Vous dites Macron est à contre-temps de la vague populiste, comme Mitterrand l'avait été à contre-temps de la révolution conservatrice de Reagan et de Thatcher. Il est libéral, Macron, dans un monde qui est de plus en plus illibéral. Alors, qu'il soit seul, d'une certaine manière, c'est pas grave, s'il a raison. Mais est-ce qu'il a raison de continuer à défendre ce monde libéral, ce modèle libéral, dans un monde qui est de plus en plus illibéral?
Daniel Cohen.
Mitterrand était l'héritier de cette promesse de la gauche dans les années 60. Il voulait changer la vie, il voulait sortir du capitalisme d'une certaine manière. C'était bien ça le sens des nationalisations. Il s'est fracassé sur un monde qui n'était pas prêt à cette transformation et finalement il était obligé de ronger son frein et d'accepter après avec la cohabitation les privatisations qui revenaient sur ce qu'il avait promis. Pour Macron et pour rester au niveau européen, l'Europe qu'il veut construire, eh bien, tout simplement ne peut pas se faire parce qu'elle est peuplée de gens qui ne veulent pas en entendre parler, qui ne veulent pas renoncer au souverainisme qui est aujourd'hui ambiant avec cette montée du populisme. Donc oui, il est à contre-courant et toute la question est de savoir quel type de compromis il va pouvoir négocier. Mais c'est quand même très grave parce que Macron a été élu sur la promesse de réinventer l'Europe, de la réenchanter et si personne n'en veut, ça va quand même poser un petit problème pour son agenda personnel et évidemment politique et surtout pour l'Europe.
Est-ce qu'il y a une impasse entre l'écologie et le capitalisme, comme l'a dit à ce micro Nicolas Hulot pour expliquer sa démission, Daniel Cohen?
Manifestement, et je le disais à propos de la révolution numérique, nos sociétés ne sont pas prêtes à renoncer à l'idéal de croissance qui a été forgé pendant la révolution industrielle. C'était le thème effectivement de mon ancien livre. Il y a un appétit de croissance dans les sociétés modernes qui s'avère inextinguible. Et donc, chaque fois qu'on laisse entendre qu'il faudrait renoncer à un chouïa de ce progrès matériel au nom d'impératifs plus vastes, on sent immédiatement des crispations. Et je pense que c'est ça, cette frustration qui explique l'attitude de Hulot. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. C'est tout simplement quelque chose comme une incapacité nouvelle à se projeter dans l'avenir dont la crise écologique et la difficulté de la résoudre est l'expression. On a fait une enquête, toujours dans ce cadre de cette analyse du populisme, mais qui est très intéressante et qui interroge les gens sur l'envie qu'ils auraient de vivre dans l'avenir. Et dans cette enquête qui a été faite avec l'INSEE, on découvre qu'il n'y a que 5% de Français, 5% de Français seulement, qui souhaiteraient connaître, vivre dans l'avenir. 70% ont la nostalgie d'un temps passé. Même pour les jeunes, il n'y a que 13% de jeunes de 18 à 25 ans qui voudraient connaître l'avenir. Et on voit ici une crise du progrès, une crise du futur. On vit dans une espèce de présent perpétuel, de présentisme, pour parler comme l'historien Hartog, et c'est ça qui rend très difficile de convaincre les populations de se projeter dans un avenir qui serait celui d'une planète qu'il faut préserver. On n'a plus cette distance critique par rapport à l'histoire. Dans les années 60, on était abreuvé de notions historiques, on se voyait comme un moment d'une histoire en cours qui se déroule, il y avait une impatience quant au déroulé de cette histoire. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, et donc la crise écologique, je crois, est d'une certaine manière l'expression de cette extraordinaire difficulté où nous nous trouvons tous à nous projeter dans un avenir désirable et qu'il faudrait construire.
On n'a pas envie de se projeter dans l'avenir à cause de ce cauchemar écologique qui semble nous attendre et aussi à cause de notre rapport au travail. Quand le robot va nous remplacer, quand l'intelligence artificielle sera partout, qu'on n'aura pas de travail, ça fait peur également. C'est l'autre versant. Daniel Cohen, est-ce que vous pensez que le revenu universel, ce thème qui avait été popularisé par Benoît Hamon pendant la campagne, puis rejeté d'une certaine manière, est-ce que ça peut être une alternative?
Moi, je pense que c'est une alternative. C'est-à-dire, je pense qu'il faut donner aux gens les moyens d'une sécurité sociale qui leur permette de traverser les épisodes de l'histoire de plus en plus mouvementés qu'ils sont en train de connaître. C'est une formule évidemment qui pose beaucoup de problèmes. Les gens pensent que c'est une mesure, au fond, contre le travail, se préparer à la fin du travail. Je crois pas du tout. C'est simplement donner aux gens les moyens de choisir celui qu'ils veulent, de ne pas être constamment sous la menace de devoir travailler dans n'importe quel bullshit job, hein, comme on dit parfois, pour devoir survivre. Maintenant, le rapport des humains à l'intelligence artificielle, c'est nous qui allons le construire. C'est pas du tout écrit que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Mais ça va dépendre des conditions sociales dans lesquelles on va l'accueillir. Prenons l'exemple des médecins. On peut tout à fait imaginer qu'un abruti dans la Silicon Valley invente une application qui vous soigne, vous regardez, prend votre prise de sang et vous dit, voilà, vous êtes soigné, plus besoin d'aller voir chez le médecin. Là, effectivement, les professions de santé sont éradiquées. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. La bonne façon, en tout cas, dont ça devrait se passer, c'est que les hôpitaux, avec les médecins, inventent des formules qui permettent de vous suivre, qui permettent d'utiliser les leviers que donne l'intelligence artificielle, mais pouvoir faire un suivi qui permettra par exemple à une infirmière d'avoir un diagnostic qui permettra, sans nécessairement passer par l'hôpital et le médecin, de vous prodiguer des
premiers
soins.
Donc vous faites confiance à la nature humaine, à la raison humaine.
Non, c'est pas optimiste, parce que je pense que si on ne donne pas aux hôpitaux, aux médecins, les moyens d'investir dans l'intelligence artificielle, on aura cette application tueuse qui remplacera le système de santé. De même pour l'éducation, on peut imaginer un robot qui vous éduque, il y aura quelqu'un qui inventera ça. Mais c'est évidemment pas ça qui est souhaitable. Il faut que les enseignants se saisissent de cet instrument pour voir ce que ça peut leur apporter. Bref, des complémentarités sont possibles, je pense qu'on doit faire le pari qu'elles existent, mais elles ne viendront pas toutes seules, c'est à nous, ce sont aux institutions hospitalières, éducatives, de se donner les moyens de les trouver.
Il est 8h36, vous avez la parole sur France Inter. 01 45 24 7000, bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
France Inter, bonjour à tous. Je suis agriculteur et dans la révolution industrielle, je pense que quelque part l'agriculture a donné sa part. On a nourri la France et la planète en grande partie grâce à des techniques évolutives effectivement phytopharmaceutiques. Aujourd'hui, si on veut revenir à quelque chose de plus doux, de plus, comment je dirais, plus environnementaliste, on va devoir réembaucher énormément de personnes dans l'agriculture parce qu'on est aujourd'hui 400 000, pas plus. Et comment on va faire en sachant que aujourd'hui, on sait que 50% des agriculteurs gagnent moins de 400 euros par mois.
Merci Yves pour cette question, Daniel Cohen.
Ça fait le lien en partie seulement évidemment, mais avec la discussion sur le revenu universel. Je pense que le revenu universel, revenu de base, il faut voir la manière dont on le définit précisément, c'est aussi une manière de soutenir des existences qui sont entre le marchand et le non-marchand et qui ont absolument besoin d'un complément, d'une sécurité qui permet, que ce soit aux paysans, que ce soit aux artistes, mais plus généralement à ceux qui sont dans la précarité, de disposer des moyens, de choisir au fond un peu, on ne va pas non plus se raconter trop d'histoires, la vie qu'ils veulent mener. Et donc, en effet, il y a beaucoup de paysans, d'agriculteurs qui souhaitent rester à la terre, qui ont une valeur sociale qui excède largement ce qu'ils sont capables de produire pour le marché. Et c'est ça, je crois, que le revenu universel illustre dans sa capacité de soutenir des activités qui sont aux marges et encore une fois, pour redonner une dimension de choix. Mais en effet, le lien avec l'agriculture est parfaitement passionnant. La société industrielle a en effet remplacé la société agraire, comme je crois aujourd'hui la société post-industrielle remplace la société industrielle. C'est une révolution de même nature et il faut de nouveaux instruments.
Retour au standard. Bonjour Benjamin.
Oui.
Vous êtes là Benjamin ?
Oui, bonjour. Bonjour. Je remarque que la France refuse la modernisation de l'économie. Et elle ne cesse de reculer dans le classement des pays les plus riches du monde. On a 6 000 dollars d'écart avec le PIB par habitant d'un Allemand, 4 000 par rapport à un Britannique, et on est maintenant 6e pays le plus riche du monde. Ces pays se sont modernisés, ont accepté la révolution libérale, telle que vous l'appelez, et sont beaucoup plus riches, et on vit beaucoup mieux en Allemagne ou en Angleterre qu'en France, économiquement parlant.
Merci Benjamin pour cette question et cette opinion. On les livre à Daniel Cohen.
C'est toujours la même histoire. Si on définit le bonheur uniquement par rapport au PIB, à la richesse produite, bon, bah oui, il y a un nombre croissant de pays qui vont faire mieux que nous. Mais quand on voit les réponses politiques, vous parliez du Royaume-Uni, on pourrait parler aussi des États-Unis, on n'a pas exactement l'impression que les gens sont si heureux que ça. Ou alors, ils n'auraient pas élu Trump, ils n'auraient pas décidé de sortir de l'Europe. Je crois qu'il y a une protestation sociale qui est très forte dans les pays anglo-saxons, qui nous était donnée en exemple de ce qu'il fallait faire parce que justement, ils étaient capables de maximiser la richesse. On est vraiment par rapport à l'Allemagne et au Royaume-Uni dans l'épaisseur du trait. Enfin, les statistiques sont pas assez précises pour dire qu'on
Mais est-ce qu'on est des Gaulois réfractaires à la réforme ?
Moi, je pense que c'est presque le contraire. Ça fait quand même, depuis justement l'élection de Mitterrand, les Français vont de réforme en réforme permanente. En fait, ils ont beaucoup évolué dans la voie de la précarité et du libéralisme, si c'est ça la question. Mais ce qui manque aujourd'hui aux Français, mais comme à l'ensemble de ces pays, c'est un nouveau rapport à l'avenir, c'est un nouveau rapport à la société. On parlait de l'éducation, on parlait de la santé. C'est là qu'on attend ou du troisième âge, du vieillissement de la population. C'est là qu'on attend des réponses qui, tout simplement, soutiennent le bien-être au-delà de ce que les statistiques du PIB seraient capables de produire.
Daniel Cohen, comment vous expliquez que 2 ans après son élection, Donald Trump affiche de bons résultats économiques?
Il affiche de bons résultats économiques parce qu'il tire sur la corde. C'est-à-dire qu'il a refait un programme de déficit budgétaire qui font que les États-Unis, alors qu'ils sont au point haut du cycle, ont un déficit qui est très supérieur à celui des Français. Donc il a gaspillé les ressources budgétaires dont il aurait besoin pour faire face au retournement économique qui va se produire nécessairement d'ici 2 ou 3 ans. Donc on peut toujours jeter les quelques bûches qu'on a sur le feu et avoir l'impression qu'on a très chaud. C'est juste une très mauvaise gestion contracyclique du cycle. Maintenant, la croissance américaine...
Qui à court terme donne des résultats sur le chômage, sur la croissance.
On avait demain un déficit de 10% du PIB en France, le premier effet, ce serait de relancer la demande, la croissance, et puis après, on se retrouvait totalement fauché lorsque le retournement se produira.
Ce serait
grave, parce que l'instrument de la politique budgétaire, il est très important pour être capable de l'utiliser à bon escient, au moment où il faut. Nous, en Europe, on l'a utilisé à mauvais escient. On a fait une consolidation budgétaire, alors même qu'on était en pleine crise, il fallait relâcher, et puis resserrer avec le retour du crise. Maintenant, la croissance de long terme des États-Unis qui se mesure par la richesse par heure travaillée, celle-là, elle ne cesse de baisser. Le paradoxe de la croissance qui disparaît, elle est très visible aux États-Unis. Si vous prenez les classes populaires ou les classes moyennes américaines, il faut quand même se rappeler que depuis 40 ans, elles n'ont connu aucune progression de leur pouvoir d'achat. Ça veut dire que la valeur des biens qu'ils produisent n'est pas exactement au rendez-vous. Je crois que c'est une des pathologies de cette société post-industrielle dont on parlait.
Je veux revenir au standard et donner la parole à Henri. Bienvenue Henri, vous nous appelez de Toulouse.
Bonjour, je vous appelle de Toulouse, du Soleil d'Or. Voilà. Alors je voudrais poser la question tout à l'heure, j'étais absolument choqué parce que j'ai entendu, si j'ai bien compris, Monsieur Cohen a parlé des valeurs morales du capitalisme. Je voudrais bien qu'il m'explicite ce que c'est les valeurs morales du capitalisme. Quand on voit comment le capitalisme s'est créé au 19e siècle par l'exploitation, effréné, et en plus la colonisation aussi des pays, et ensuite l'exploitation, elle perdure, bien sûr.
Il va vous expliquer, Henri. Merci pour cette question. La parole à Daniel Cohen.
Je vais vous expliquer, surtout, je vais vous rassurer. Il fallait mettre des guillemets dans les valeurs morales du capitalisme. Mais bon, le grand sociologue Max Weber avait expliqué que les origines du capitalisme, c'était l'éthique protestante, c'est-à-dire un certain rapport au travail, à l'effort, à la sèse, en réalité. Et quand je disais revenir aux valeurs morales, c'était entre guillemets. Ça veut dire que la révolution conservatrice, celle de Reagan, de Thatcher, elle a prétendu qu'elle revenait aux valeurs morales fondatrices du travail et de l'effort. Et c'est comme ça d'ailleurs que Reagan a gagné l'assentiment des classes populaires. Il leur a expliqué vous travaillez, vous levez tôt le matin. C'est un peu ce que Nicolas Sarkozy dira 20 ans plus tard. Eh bien, c'est cette trahison-là dont le populisme est aussi l'expression. Vous avez raison d'être indigné. Il n'y a pas eu de retour aux valeurs morales, entre guillemets, celles du travail et de l'effort, parce que tout simplement, le travail et l'effort, en tout cas certainement dans l'Amérique reaganienne, n'a pas payé. Encore une fois, on a plutôt assisté à une régression, en réalité, du pouvoir d'achat des classes moyennes américaines. Donc c'était des guillemets, mais c'était pour mettre en symétrie l'espérance de la gauche dans les années 60, on va sortir du capitalisme, et l'espérance de la droite dans les années 80-90, on va revenir à des valeurs fondatrices,
et les deux
ont été trahis. Mais je veux vous rassurer, il y avait beaucoup de guillemets dans ce que je disais quant aux valeurs morales du capitalisme.
Alexandre, bonjour, vous êtes dans le 14e, vous avez la parole.
Oui, bonjour, Alexandre de Paris 14. Par rapport au numérique, d'une manière générale, au jour d'aujourd'hui et dans le monde entier, que pensez-vous de la ferme des animaux, 1984 et la guerre des braves ?
Merci pour cette question, Alexandre.
C'est vrai que d'une certaine manière, on a l'impression de vivre dans les films, les romans ou les descriptions qui ont été faites d'un monde totalitaire, hyper productiviste, tel qu'il a pu être conçu par les auteurs dont vous parlez, Orwell en particulier. Et au début, on a un peu écarté ça. Non, on n'est pas dans le Big Brothers, on n'est pas dans la société de surveillance. Mais en réalité, si, il faut prendre ça très au sérieux. La révolution algorithmique, numérique dont je parlais tout à l'heure, elle vise à tout savoir de vous pour pouvoir justement créer une interface, un logiciel qui va s'occuper de vous mieux qu'un humain. C'est bien ça l'enjeu. Donc, il faut tout savoir de vous. Il y a un film que j'adore qui s'appelle Her, qui H-E-R. Explique H-E-R. Il y a Her dans les années 60 et Her. Mais merci de corriger mon anglais. Je sais que c'est le moment compliqué de la démonstration. Mais qui explique très bien cette révolution algorithmique. C'est intègre l'histoire, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, de quelqu'un interprété par Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'un logiciel. Et la voix du logiciel, c'est celle de Scarlett Johansson, la magnifique actrice de Matchpoint. Et il tombe amoureux d'elle d'une manière qui est parfaitement convaincante parce qu'elle sait tout de lui. Elle connaît ses faiblesses, elle connaît ses moments d'angoisse. Et donc, elle le séduit. Alors, il y a évidemment le problème du corps, mais il n'y a aucun problème. Elle recrute une prostituée pour coucher avec lui et c'est elle qui lui parle. Donc, elle a même prévu ce besoin de corps. Et ce qui est extraordinaire dans le film à la fin, enfin, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ferment le poste de radio tout de suite, c'est qu'il découvre qu'elle est amoureuse de lui, mais de milliers d'autres personnes à la fois. Et c'est ça, les algorithmes. C'est, on va vous faire quelque chose sur mesure, pourvu que vous acceptiez de rentrer dans la toile, dans la matrice, mais on va pouvoir le faire, et c'est ça la promesse de l'intelligence artificielle, on va pouvoir individualiser cette offre sur une échelle de plusieurs milliers de personnes à la fois. Et comme vous en souvenez peut-être, Léa, puisque vous avez vu le film, à la fin, c'est elle qui le quitte, c'est le logiciel, parce qu'elle s'ennuie avec lui, et elle préfère faire l'amour avec d'autres logiciels. Donc on a ici une très bonne métaphore.
Avec d'autres humains.
Non. Finalement, elle le quitte parce qu'elle se fatigue de sa relation avec les humains. Et elle va avec un espèce de secte de logiciels vivre entre eux parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les humains. Et c'est ça la grande angoisse du monde post-industriel numérique. C'est qu'ils nous abandonnent, nous, pauvres humains, et pour aller faire des choses plus intéressantes sans nous.
Une dernière question très rapide. Pourquoi décrivez-vous ce nouveau monde numérique comme un suppositoire?
Ben parce qu'il faut qu'on rentre, il faut que nous rentrions comme un suppositoire dans ce corps numérique pour pouvoir être traité par ces algorithmes. Bref, il faut que nous acceptions ce quantum de déshumanisation nous le suppositoire. C'est nous qui rentrons dans le... Enfin, dans la métaphore que je propose en tout cas. C'est nous qui rentrons comme un suppositoire dans le corps numérique pour pouvoir faire l'objet de cette attention qui, au prix d'une déshumanisation, va peut-être nous faire retrouver l'idéal de croissance.
Il faut dire que les temps ont changé. Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est le titre de votre dernier livre.
Daniel Cohen. Et d'une chanson de Diane Pell.
Ben voilà, chez Albin Michel. Merci d'avoir été au micro d'Inter.